Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, septième épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec saint Thomas d'Aquin et la question « Dieu est-il miséricordieux ?» Que Dieu soit miséricordieux, tout le monde en conviendra, et spécialement les musulmans qui, dans la Fatiha, leur prière de base, qui reprend les sept premiers versets du Coran, désigne deux fois et d'entrée de jeu Allah comme le « toute miséricorde » et le « très miséricordieux ». Mais comment est-ce possible? Et qu'est-ce qui distingue la miséricorde de Dieu et la nôtre? De fait, la compassion relève d'une certaine souffrance, et il n'y a pas de souffrance dans la divinité même. Et puis la miséricorde semble s'opposer à la justice. Si l'on pardonne tout, toujours, n'est-ce pas cautionner les actes injustes et infantiliser l'homme? Notre époque est par ailleurs marquée par de terribles hérésies de la compassion. C'est par compassion que l'on prétend pratiquer l'avortement, l'euthanasie, la destruction des handicapés. Rien n'est plus urgent dès lors que de distinguer la miséricorde divine d'un sentimentalisme destructeur, soit parce qu'il veut abolir toute souffrance, comme dans la logique euthanasique, soit parce qu'il ne s'exerce qu'envers ses co-religionnaires et se change en rejet par rapport aux autres, comme dans la logique islamiste. C'est à cette distinction que nous invite le texte de saint Thomas d'Aquin, que nous allons lire tout de suite.
Il semble que la miséricorde ne convienne pas à Dieu, car elle est une espèce de tristesse, selon Jean Damascène. Or, il n'y a pas de tristesse en Dieu. En outre, la miséricorde est un relâchement de la justice, mais Dieu ne peut négliger ce qui relève de sa justice, car saint Paul écrit « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Et comme l'observe la glose, « Dieu se renierait lui-même s'il reniait ses paroles. » En sens contraire, il est dit dans le psaume « Le Seigneur est compatissant et miséricordieux. » Je réponds donc en disant que la miséricorde doit être attribuée à Dieu, au plus haut point, mais selon ses effets, non selon une émotion qui relève de la passion. Pour l'établir, il faut considérer qu'être miséricordieux, c'est avoir en quelque sorte un cœur misérable, c'est-à-dire affecté de tristesse à la vue de la misère d'autrui, comme s'il s'agissait de la sienne propre. Il s'ensuit qu'on s'efforce de faire cesser la misère du prochain, comme on ferait pour la sienne. Et tel est l'effet de la miséricorde. Donc, s'attrister de la misère d'autrui ne convient pas à Dieu. Mais faire cesser cette misère lui convient par excellence, si nous entendons par misère une déficience quelconque. Or, les déficiences sont supprimées par l'octroi de quelques bontés, et l'on a montré précédemment que Dieu est la source première de toute bonté. Dès lors, la première objection s'efface puisqu'elle ne porte que sur la miséricorde au sens d'émotion passionnelle. S'agissant de la seconde objection, il faut dire que Dieu agit miséricordieusement, non certes en faisant quoi que ce soit de contraire à sa justice, mais en accomplissant quelque chose qui dépasse la justice. Il en est comme de celui qui, devant 100 deniers, en donne 200 en prenant sur ce qui lui appartient. Cet homme n'agit pas contre la justice, mais il agit, selon le cas, par libéralité ou par miséricorde. De même, celui qui remet une offense commise envers lui, car celui qui remet quelque chose le donne en quelque manière. Aussi l'apôtre appelle-t-il la rémission un don ou un pardon. Pardonnez-vous les uns aux autres comme le Christ vous a pardonné. On voit par là que la miséricorde ne supprime pas la justice, mais est en quelque sorte une plénitude de justice. C'est ce qui fait dire à saint Jacques, la miséricorde exalte le jugement au-dessus de lui-même.
Fabrice Hadjadj, la miséricorde doit être attribuée à Dieu au plus haut point. Quel est le contexte de ce texte?
Alors c'est un texte qui porte au début de la Somme de théologie sur les attributs divins et sur une appellation qu'on trouve dans la Bible, Dieu est miséricordieux. Et immédiatement se pose un problème, c'est que le mot miséricorde suppose une misère. Étymologiquement, ça signifie avoir un cœur qui est dans la misère relativement à autrui. C'est-à-dire qu'un cœur qui souffre de la souffrance d'autrui, un cœur qui se sent misérable de la misère qu'éprouve celui qu'on aime. Or, autant on peut attribuer à Dieu des passions, si vous voulez, pas au sens du mot passion, mais qui n'implique aucune déficience, donc l'amour, la joie, mais une passion qui impliquerait une quelconque forme d'imperfection, et notamment la tristesse, on ne peut pas l'appliquer à Dieu. Donc c'est ça le contexte. Alors, bien sûr, je sais certains qui diront mais si Dieu dans sa divinité même souffre, Dieu en lui-même est triste. Et on a vu se développer ces derniers temps tout un sentimentalisme théologique, si j'ose dire. Alors bien sûr que Dieu est triste dans l'humanité du Christ. Bien sûr que Dieu souffre dans l'humanité du Christ, mais dans la divinité même, Dieu est Dieu, et à Dieu il ne manque rien, il ne peut y avoir aucune diminution. Ou alors, il faudrait faire de la tristesse tout d'un coup une perfection. Peut-être qu'il y a dans la tristesse quelque chose qui est de l'ordre de la perfection, c'est ça qu'il s'agit de voir. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la tristesse comme telle dont on parle, c'est autre chose. Le fait que d'être avec l'autre, d'être sensible à l'autre, etc. Bon, peut-être. Mais vous voyez, si on commence à dire ça, on arrive à des aberrations, parce que ça veut dire que le concept de Dieu devient complètement aberrant, absurde, et même, ça s'inverse. Si Dieu souffre, à ce moment-là, la souffrance devient divine, et on tombe dans le dolorisme, et on va dire, alors, tu souffres, c'est très bien, c'est divin, de quoi te plains-tu? Voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Je me souviens d'un débat entre Catherine Chalier... Et mon maître Jean-Louis Chrétien, c'était autour de la question de Dieu pleure, est-ce que Dieu pleure? Et Catherine Chalier, qui voulait rester, qui voulait prendre les images bibliques pour dans un sens propre et pas dans un sens justement métaphorique, comme le dit Thomas d'Aquin, disait oui, Dieu pleure. Et Jean-Louis Chrétien dit mais si Dieu pleure, qui nous consolera? Et non, Dieu est joie, et il est déversement de joie, il n'y a aucune tristesse en lui. Donc, comment penser cette miséricorde? C'est ça la question qui est posée ici par Thomas d'Aquin.
Fabrice Adage, juste pour qu'on puisse clore ce premier chapitre sur le langage biblique, comment justement comprendre ce côté des viscères de Dieu qui se serrent, ce côté très imagé des entrailles divines, ou même, comme le pape François l'exprimait dans sa bulle à l'occasion de l'année de la miséricorde, de Dieu qui se laisse émouvoir comme un père, voilà, qui sont encore très présentes dans la théologie actuelle et qui sont vraiment un langage qu'on entend beaucoup.
Oui, et on a besoin de ce langage. Le lieu de la piété n'est pas la pureté abstraite du concept théologique. Voilà, hein, il faut quand même le reconnaître. Et on pourrait même montrer ici la force de la piété populaire, d'une certaine façon, qui va se représenter un Dieu comme un père qui souffre. Et c'est vrai, parce que ces choses-là sont vraies dans le Christ. Mais lorsqu'on parle de la compassion, de la miséricorde de Dieu, donc effectivement, on renvoie à un mot qui est rachamim, qu'on retrouve en arabe, puisque effectivement, ce mot qui est employé pour désigner Dieu au début du Coran et qui revient au moins 20 fois dans la prière musulmane, hein, donc c'est une insistance très forte, eh bien, ce mot raham renvoie au rahem, à la matrice, aux entrailles. Mais voyez, est-ce que les entrailles, c'est le lieu de la tripe qui s'émeut, ou est-ce que les entrailles, c'est la matrice qui engendre? C'est ça la question. Et le vocabulaire biblique lui-même, qui renvoie aux entrailles, en parlant de miséricorde, renvoie surtout à cet enveloppement, je dirais, maternel de Dieu, mais qui porte son enfant pour le mettre au monde. Et là, on retrouve ce que dit Thomas.
Pour Thomas d'Aquin, Fabrice Hadjadj, la miséricorde ne se fonde pas d'abord sur une émotion ou sur une passion de la part de Dieu, elle se fonde sur la justice.
Alors, oui, ça c'est, y a deux registres de questions. Il y a la question qui porte sur la question de la passion, et puis, dans ce texte, il y a une deuxième question, c'est de savoir le rapport entre miséricorde et justice. Et donc, on est dans tout un second débat. Mais si vous le permettez, je voudrais qu'on reste d'abord sur le débat de la passion. Parce qu'en fait, Thomas d'Aquin donne trois éléments d'abord. Il en donne deux, mais en fait, il y en a trois. Hein. Dans la miséricorde, il y a une certaine misère, une certaine tristesse. Mais c'est à propos de la misère d'autrui. Donc, il y a un être avec autrui. Et il y a un troisième point, c'est que la miséricorde est active. Elle cherche à faire cesser la misère du prochain. Donc, il y a trois éléments dans la miséricorde telle que nous la vivons. Une tristesse, c'est vrai, un être avec l'autre et une action qui nous pousse à chasser la misère de l'autre, à faire en sorte que l'autre aille mieux, se tourne vers le bien. Alors, ce que dit Thomas, c'est qu'en Dieu, on ne peut pas trouver de tristesse. Et d'ailleurs, quand je suis triste, quand je suis abattu, je ne peux pas être complètement attentif à l'autre. Enfin, si je suis diminué, comment serais-je vraiment présent à l'autre? Donc en fait, la tristesse affecte d'une certaine façon l'être avec, et même l'efficience, on pourrait dire, de la miséricorde. Parce que parfois, et c'est ce qui se passe dans les logiques euthanasiques, où je suis tellement ému que je veux éteindre ma propre émotion, vous voyez, j'en peux plus, cette souffrance de l'autre, je n'en peux plus. Comment je vais faire? Et je vais employer n'importe quel moyen, jusqu'à faire disparaître l'autre, en fait. Parce que cette souffrance de l'autre m'est intolérable, parce qu'elle me fait souffrir à mon tour. Et je perds toute forme d'objectivité, parce que je suis submergé par la tristesse. Alors le fait que Dieu n'ait pas cette tristesse fait que son être avec l'autre, qui fait partie de la miséricorde, et que son action objective pour chasser la misère d'autrui sont parfaites. Vous voyez, c'est bien ça qui est en jeu. Et donc, effectivement, on pourrait dire que le fait de souffrir de la misère d'autrui dans la miséricorde n'est pas la perfection, ou simplement dans cet aspect, l'aspect de la souffrance qui fait qu'on est avec l'autre, mais pas qu'on souffre. S'il y en a un qui souffre et que je souffre moi-même avec lui, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai fait que redoubler le mal. Quelle est la positivité de la compassion? C'est le koum, c'est pâtir avec, c'est être avec. Quelle est la positivité de la compassion? C'est pas le fait de pâtir, mais après peut-être d'agir pour être avec l'autre, pour accompagner l'autre, et dans le sens du bien. Voilà.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, Dieu est-il miséricordieux? Alors, maintenant, j'aimerais quand même en venir à cette deuxième question qui, moi, m'intéresse personnellement beaucoup. En effet, la miséricorde peut être vue du point de vue humain, comme une faiblesse de la justice ou comme un refus de réparer l'injustice commise. La miséricorde de Dieu, Dieu qui pardonne les pécheurs, eh bien, pour celui qui a subi le tort du péché, c'est presque un manque de miséricorde, on pourrait se dire, parce que la vraie miséricorde vis-à-vis de celui qui a souffert, ça pourrait être de punir celui qui l'a fait souffrir, d'une certaine manière.
Bien sûr.
Or, la miséricorde de Dieu s'exerce sur les bons et sur les méchants. Et surtout, peut-être, envers les méchants qui en ont le plus besoin.
Comment penser une miséricorde qui est plénitude de justice, qui est plein accomplissement de la justice? Ou alors, comment montrer que ce qu'on appelle la stricte justice, une justice qui serait sans miséricorde, finalement est injuste? Parce qu'au fond, c'est ça. Et, Et donc, c'est cette manière d'opposer, il faudrait poser la question de cette façon-là. Si j'enlève le pardon, je ruine la justice. Alors, qu'est-ce que veut dire pardonner à partir de ce moment-là aussi? Parce que forcément, ça veut dire que les deux termes, justice et miséricorde, vont être affectés l'un par l'autre. Alors d'abord, Thomas d'Aquin insiste sur le fait que ce qui est absolument premier, parce que c'est vrai que la miséricorde est plénitude de la justice, mais pas parce que la justice est fondement de la miséricorde, mais plutôt parce que la miséricorde est fondement de la justice. Alors c'est là où il faut faire attention, parce que le simple fait que nous existons, que nous sommes créés, ne relève pas d'une justice. Nous ne méritions rien. Nous ne méritions pas d'être. Et le fait que Dieu nous crée avec un certain nombre de perfections, donc sans, en ne voulant pas de telle ou telle déficience, ça fait partie de quelque chose qui est de l'ordre, plutôt d'une miséricorde. Donc la racine de la création n'est pas la simple justice. Et pour qu'il y ait justice, la situation de justice suppose un échange avec un vis-à-vis. La miséricorde est du côté du don, ce qui est au-delà. Et il n'y a pas de justice dans l'acte de création. Nous n'étions pas en droit de revendiquer l'être, nous ne sommes pas en droit de revendiquer, puisque nous n'étions pas. Donc c'est un acte, alors qu'on peut rapporter à la miséricorde ou à la libéralité de Dieu, c'est ce que dit Thomas, hein, sa bonté aussi. Mais ça montre qu'il y a quelque chose qui est antérieur à la justice. Il y a une générosité première de Dieu. Après, que se passe-t-il lorsque l'homme manque à la justice? Alors, on va prendre un cas, effectivement. Parce que quand vous regardez le sacrement de pénitence, le sacrement de pénitence, quand même... Donc, qui donne le pardon, implique quand même trois choses en même temps. Et il n'abandonne pas, c'est pas juste on passe l'éponge et puis il n'y a plus rien. Ça implique trois choses, hein. Vous savez, hein, confessio oris, contritio cordis et satisfactio operis. C'est comme ça que le dit Thomas, on va le dire en français. Hein. La confession de la bouche, des lèvres. Et déjà, quand on dit « faute avouée, d'à moitié pardonnée », mais déjà, dire, reconnaître sa faute de sa propre parole devant quelqu'un, devant le prêtre, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est pas rien. Et c'est déjà satisfaire une justice incroyable. Et de pouvoir dire « mais j'ai... » Deuxième chose, la contrition du cœur. Le cœur est broyé. Alors, même si... Au moment où on se présente, ça peut être la peur du châtiment, ce qu'on appelle l'attrition et non pas la contrition. La doctrine catholique nous dit que le sacrement lui-même nous donne cette contrition. Et donc, le fait qu'on a le cœur broyé du mal qu'on a fait. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une satisfaction. C'est-à-dire que ce n'est pas une réparation, parce que d'abord, il y a tellement de choses qui sont irréparables. Si vous avez tué quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On vous tue, alors on a fait deux morts. C'est pour ça que la peine de mort ne résout absolument rien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va te demander une réparation. Mais ça suppose que vous ressuscitiez le mort avec intérêt. Mais vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On voit bien que la question du pardon, c'est de dire, vous avez été libre de faire le mal, vous pouvez être libre de vous repentir et tout d'un coup, de faire le bien. Voilà, c'est ouvrir l'avenir du bien. Et ça, c'est plus proche d'une vraie réparation que la peine de mort ou que la... Voilà, c'est cette question qui est en jeu. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle ici de satisfaction et pas de simple réparation? Parce que la satisfaction, c'est faire... de telle sorte qu'on estime que c'est satis assez. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont irréparables, mais il faut faire quelque chose qui est suffisant quand même. Donc, un prêtre ne peut pas accorder le pardon à quelqu'un qui dit « Voilà, j'ai volé 1000 francs à ma voisine, qui en a besoin, ils sont encore en ma possession. » Il ne va pas dire « Mon fils, je te vous pardonne, et puis vous gardez les 1000 francs. » Non, vous les rendez. Sinon, il n'y a pas d'absolution. Donc, à aucun moment, dans le sacrement de pénitence, voyez, on serait dans un oubli complet de justement, c'est une pénitence, c'est-à-dire que c'est un retour vers Dieu. Donc, le pardon n'est pas du tout un oubli, puisqu'il fait mémoire, on doit confesser, n'est pas du tout une indifférence, puisqu'on a le cœur broyé, et n'est pas du tout une inaction, puisqu'on va aussi essayer de satisfaire. Donc, en réalité, on pourrait dire que la miséricorde accomplit une justice beaucoup plus intérieure. Alors, je rappelle une chose hein, quand même, parce qu'aujourd'hui, on oublie on croit que le pardon, souvent on en fait un truc psychologique, j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal et je vais mieux, moi. Bon, et on oublie que la question du pardon, c'est d'abord le bien de celui qui nous a offensés, c'est pas simplement que soit on se sente bien. Bon, aujourd'hui, la réduction du pardon à des questions de développement personnel, c'est un peu terrible. Mais ça suppose que l'autre vienne demander pardon. Et quand l'autre vient demander pardon, en quoi est-ce qu'il ne réaliserait pas, en quoi ce ne serait pas la plénitude de la justice? Parce que lorsqu'il vient demander pardon, il dit « je reconnais que j'ai fait le mal ». Là, on n'est pas en train d'appliquer une peine de l'extérieur. C'est que celui qui a fait le mal le reconnaît. Et donc, c'est son propre cœur qui est en jeu. Et la deuxième chose, c'est qu'il dit « tu me pardonnes pour que je compense, non pas en subissant simplement une peine, inflige-moi une peine, il va réclamer une peine pour son expiation, mais en plus que tu réouvres un avenir pour que je puisse faire le bien, un avenir de bonté. » Et ça, c'est la plénitude de la justice. Parce que si j'enferme l'autre dans le remords, si je l'enferme de alors qu'il pourrait être une puissance de bonté dans le monde. Alors voilà, on peut... Mais voilà, ça suppose toute cette dimension, bien sûr, du repentir. Et donc, c'est de la plus haute exigence.
Fabrice Adjadj, donc, on voit ici que la miséricorde est la plénitude de la justice. On pourrait se poser la même question par rapport à la miséricorde du point de vue de la faiblesse ou de la puissance de Dieu. On pourrait se dire que c'est une forme de faiblesse puisque c'est un refus de punir ou quoi que ce soit. Mais dans un article de la seconde partie de la Somme théologique, la Segunda Segundae, Thomas d'Aquin dit non seulement que la miséricorde est la plus haute justice, mais que la miséricorde exprime au plus haut point la puissance de Dieu et qu'elle est la manifestation suprême de la toute-puissance de Dieu. Comment comprendre ça non seulement du point de vue de la justice, mais aussi de la puissance ?
Oui, ben c'est la scène avec le paralytique. Quand tu dis comment tu peux dire que des péchés sont pardonnés, et il dit, lève-toi et marche. Est-ce que c'est pour vous comprendre que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés. Bon, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du miracle hein, dans cette miséricorde de Dieu, faire que ce qui a eu lieu, non pas n'ait pas eu lieu, mais change radicalement de signification. Ce qui pouvait être un poids de remords et d'enfermement dans le passé devient un poids qui nous tourne vers l'avenir. Voilà, ça suppose cette contrition et cette transformation du cœur. Et c'est là où il y a quelque chose qui est un signe de puissance, c'est-à-dire la conversion du pécheur. C'est la marque de la justification elle-même. Donc c'est le mouvement même de la conversion, celui dont on disait c'est impossible qu'il se réforme. Donc il ira forcément, il va vers la damnation. Et voilà que celui qui a opéré la lapidation d'Étienne devient saint Paul.
Et donc au-delà de simplement effacer notre misère, en fait la fin de la miséricorde, c'est notre divinisation.
C'est notre divinisation et c'est surtout voilà Dieu t'a pardonné. Bon très bien. On pourrait dire la justice ça consisterait à quoi? À subir. C'est souvent comme ça, mais alors à ce moment-là, en quoi cette justice où l'on fait subir à l'autre quelque chose est puissante? Voilà, on l'a puni, il n'a même pas peut-être accepté. Ben non, en fait, la justice vue comme cela est incapable d'accomplir pleinement la justice parce qu'il faudrait que l'autre reconnaisse sa faute. Donc il faut bien solliciter son cœur. Le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Mais il n'y a que la générosité, que l'amour, que la miséricorde qui peut dominer jusqu'au cœur de l'ennemi. Parce que tout d'un coup, l'ennemi dit mais moi je croyais que j'étais condamné, etc. Mais non, il y a quelque chose. Et alors son cœur se transforme. Sinon, il n'y a pas de domination. Sinon, on le punit, mais de l'extérieur. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne s'agit pas simplement de restituer de l'argent. Dieu nous a pardonné peut-être pour une faute qu'on a commise, mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ben maintenant, tu peux suivre le Christ. Donc, c'est jusqu'au martyr. C'est jusqu'au martyr. Et là, on peut dire que ça va bien plus loin qu'une quelconque stricte justice qui resterait au fait. Mais là, ça nous fait aller plus loin dans la suite du Christ et donc dans une aventure qui est celle de la montée jusqu'au bout.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Saint Thomas d'Aquin, Fabrice Adjadj, Geldric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 18h30, les vendredis à 14h, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.